الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد شفيع الورى شفيع المسلمين وسيد الورى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على من كان إذا تكلم كفى، وإذا صاح بصفى، وإذا عاهد وفى، وسميته حبيبا ومحبوبا ومصطفى، وكتبت اسمه الشريف على ساق العرش أحرفا، سيد العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم، زاده الله شريفا وتعظيما واحتراما، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بادئا من البدء أشكر لكم هذه الدعوة المباركة، أشكر لمسجد نوت، مسجد الفرقان، والساهرين عليه، الشيخ طارق أبو الوفاء الإمام ديالنا والناس الساهرين، نشكر لهم هذا المجهود الجبار، ونشكر لهم هذه الدعوة الكريمة على هذا يعني جو رومارسي تو دابور مي فخير ايسي كي سوكيب دو لا موسكي الفرقان نونت كي نوزو انفيتي ايمابلمون اي جو لو رومارسي بور لوغز افور اي اوسي بور سيت انفيتاسيون بور ان سوجي تري امبورطون كي نوز انتريس توس. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. C'est un sujet effectivement d'actualité et qui effectivement nous intéresse tous à tous les niveaux. Je remercie Cheikh Abou Louafa, je remercie l'imam, je remercie tous les frères et sœurs qui s'occupent de cette mosquée bénie. Et donc, après l'intervention de Cheikh Abdelrahman, j'interviendrai sur la finance islamique, donc les contrats, enfin d'abord les principes. Donc premier axe, ce sera les principes, quelques principes de base de la finance islamique. Et puis ensuite, quelques contrats qui construisent cette finance islamique. Et puis toujours un peu un comparatif entre ce qui est pratiqué, la théorie et la pratique. Et enfin, je vais donner quelques actualités de la finance islamique en France, et puis une bibliographie pour élargir l'utilité. دونك غادي نحاولوا نتكلموا باللغتين العربيه والفرنسيه، وانما غادي نركزوا على الفرنسيه لكي تعم الفائده ان شاء الله. والاسئله ان شاء الله ستكون في الختام، والاسئله هي اللي غادي تمكنكم ان شاء الله من الفهم التام ان شاء الله لهذا الامر هذا، ويكون عندنا لقاءات وحلقات اخرى باذن الله. ف اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الذاكرين. دونك الاسلام كونسيدير لارجون دو ديو كوم ان مويان اي اون ايبروف بور تيستي لا فوا دو كرويون. إذن المال مال الله، استخلف الله تبارك وتعالى الإنسان في أرضه وعلى ماله. يقول الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، ويقول كذلك: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. Donc l'homme, selon les termes du Coran, est le vicaire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Et il a la lourde responsabilité, la lourde épaule, l'amana, de gérer les biens par lesquels Dieu l'a gratifié et que Dieu lui a octroyé de façon responsable. Donc d'utiliser, de les dépenser dans le bien et l'utile et ne pas le dépenser dans la destruction et les désobéissances. L'islam aussi a mis en place certaines valeurs dans le comportement du musulman avec l'argent, dans le comportement du musulman avec autrui, dans le comportement cultuel et culturel. Donc l'islam ne se restreint pas à un culte, mais il dépasse cela très largement. Le modèle islamique est différent, le modèle économique islamique notamment, est différent du capitalisme et du communisme. L'islam est un awanun bin rasmaliya wa. L'islam donc considère l'argent comme un dépôt chez l'homme, donc c'est l'argent et l'argent est à Dieu et non à l'individu comme pense le capitalisme, ni à l'État comme pense le communisme. Néanmoins, l'islam évidemment reconnaît la propriété privée et la respecte. Donc l'islam بالنسبة لي المال مال الله ليس المال لك وليس للدولة وإنما كل له مال الله الذي استودعه عليه لينفقه فيما يرضي الله تبارك وتعالى حسب ما أمره سبحانه وتعالى وسيسأل عنه يوم القيامة. Et l'homme donc sera jugé, sera questionné sur l'argent, donc sur ce qu'il a, hein, ce qu'il possède. Et bien, il sera questionné le jour du jugement sur ce qu'il a fait avec ça et comment il l'a gagné. comment il a fait pour est-ce qu'il l'a gagné de façon licite, et puis ce qu'il a fait avec cet argent. Donc dans le modèle économique, on trouve dans le modèle économique islamique, on trouve notamment ce qu'on appelle la zakat, l'aumône purificatrice légale, qui sert donc qui est un pilier de l'islam, qui sert entre autres à réaliser l'équilibre, la justice sociale, d'empêcher le monopole de l'argent par les riches et d'encourager la spéculation, sa circulation pardon, des biens, donc loin d'un monopole donc et d'un individualisme. Et celui évidemment qui s'acquitte de la zakat protège son argent et le bénit, il purifie par là son cœur, élève son âme et fait fructifier ses biens. Et Dieu lui multiplie les mérites. Donc dans les banques islamiques, je reviendrai plus tard sur cela, on trouve ce qu'on appelle Beit Zaka. Et on trouve aussi la mise en place d'une fiducie, l'Waqf. Hein, donc aujourd'hui, les lois en France vont dans le sens de faciliter la mise en place de la fiducie, comme on va le voir tout à l'heure dans l'actualité. Donc tout ceci pour amener la société à la solidarité, à la compassion, à la générosité, même à l'altruisme, et arriver ainsi à l'équilibre et à la justice sociale, et par là à la sécurité et la paix. Dans son éthique englobant, l'islam s'est intéressé aussi, comme on l'a dit, aux comportements commerciaux. Il en a mis un cadre. Comme on l'a vu avec Cheikh Abdelrahman, la crise financière actuelle, elle est due notamment et spécialement à cause de non-respect d'un cadre moral. Donc aujourd'hui, on parle de moralisation du capitalisme, on parle d'investissement socialement responsable. Eh bien, la finance islamique, depuis 1400 ans, l'islam a posé les piliers, a posé les grandes bases de l'économie, hein, d'une économie basée sur l'éthique, basée sur des principes qu'on va voir tout de suite, et qui découle évidemment de la justice, du consentement mutuel entre les deux parties contractantes, du non-préjudice hein, entre les deux parties contractantes, et de la clarté des transactions. Nafi al-jahala wa nafi al-gharar والعقد شرط المتعاقدين والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ولا ضرر ولا ضرار كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وكذلك من غشنا فليس منا. هذه أمور بسيطة ولكنها لا تطبق للأسف الشديد، وهي يعني كما سنشاهد بعد قليل التي سببت في هذه الأزمة المالية الكبيرة التي نعيشها، لأن الإنسان أراد أن يستقل بنفسه عن نفسه. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Donc, quelques principes généraux pour les contrats de vente en islam. Donc, tout d'abord, l'interdiction du riba. Alors, riba, Allah tabaraka wa ta'ala فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلى أن يقول سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الربا الله تبارك وتعالى ينذر آكل الربا وهي من الكبائر الكبيرة وفي إجماع على تحريمه بنص القرآن الكريم وبالحديث. الله تبارك وتعالى يحاربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن حاربه الله أين يذهب؟ ها؟ فالله تبارك وتعالى لم يأذن في الحرب إلا في اثنين، آكل الربا والمعادي لأولياء الله تبارك وتعالى، فقال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. Donc, riba étymologiquement veut dire surplus, usufruit. Allah dit dans le Coran, Allah anéantit l'intérêt usuraire, riba, et fait fructifier, yurbi, les aumônes. Il est traduit au sens de la loi islamique par usure, intérêt, donc il est illicite, comme j'ai dit en arabe. Par le Coran et la Sunna, en islam, l'investisseur se comporte plutôt comme un entrepreneur et partage les risques et les rendements. Si en France le taux d'usure est illicite et non le taux d'intérêt, en islam les deux taux d'intérêt et d'usure sont interdits comme on va le voir. Donc le nombre des versets qui traitent du riba est de 8, donc sourate 2 verset 275 jusqu'au verset 280, sourate 3 verset 130 et la sourate 30 verset 39. On distingue deux sortes de riba, le riba dans les échanges, vente-achat, donc riba al-buyu', et le riba dans les crédits, riba al-qurud. Certains savants optent pour une classification beaucoup plus vaste et distinguent deux types de riba. Donc riba al-nasi'a, à terme, somme payée pour l'usage de capitaux empruntés ou en contrepartie d'un rééchelonnement dans le paiement d'une dette. C'est-à-dire vous donnez à quelqu'un un crédit, il vous rembourse plus tard la somme plus un surplus. C'est-à-dire que le délai accordé pour le paiement du crédit est facturé. Donc, kullu qardin jarra naf'an, fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an, fahuwa riba. Donc, je traduis les versets que j'ai dit tout à l'heure en arabe. Allah, gloire à lui, dit dans le Coran ce propos, ceux qui pratiquent, mangent l'intérêt, ne se lèvent qu'à la manière de celui qui, frappé de folie, est rossé à tort et à travers par le diable, et ce, parce qu'ils ont dit que le commerce n'était rien d'autre qu'une forme d'intérêt. Or, Dieu a permis le commerce et a interdit l'intérêt. Jusqu'à ce qu'il dit, au vu qu'il avait cru, craignez Dieu et abandonnez le restant de l'intérêt si vous êtes croyant. Si vous ne le faites pas, acceptez alors une guerre de la part de Dieu et de son messager. Si vous revenez au droit chemin, vous avez droit à vos capitaux. Vous ne commettez pas d'injustice et vous n'en subissez point. Sourate 2, versets 275, 278 et 279. Et il a été rapporté de façon sûre d'après Jabir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: a maudit celui qui se nourrit d'usure, riba, celui qui la produit, celui qui l'enregistre, et celui qui en sert de témoin, wa shahidayhi. Akil riba wa mokilhu wa shahidayhi. Il a dit qu'ils sont tous pareils, rapportés dans l'authentique de Muslim. Donc ça, c'est ce qu'on appelle riba al-nasi'a, qui est très connu et très utilisé aujourd'hui dans les banques et assurances conventionnelles. D'accord? Deuxième catégorie des riba, riba al-fadl. Donc dans les ventes ou échanges d'un bien contre un autre de même nature, s'il y a surplus, comme on va le voir avec les détails, il y a ce qu'on appelle riba al-fadl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un hadith qui est très important parce qu'il donne effectivement les espèces les plus importantes sur lesquelles les savants musulmans vont faire des analogies. Et c'est très important de faire cette remarque-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel. Quantité égale contre quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l'intérêt rapporté par Muslim. Le hadith al-asnaf hadi, أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر جيد فسألوا عنه فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. يعني كيجيبوا له تمر جيد وتمر رديء وكياخد تمر الجيد بواحد جوج صاع ديال التمر الجيد بجوج الصاعات ولا اكثر نتاع التمر الرديء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال هذا عين الربا، ثم أرشدهم. احنا شفنا الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم انه ينهى عن المنكر ثم يأمر بالمعروف، هكذا يكون المرشد، يعني ماشي ينهى على حاجه وما يجيش لها البديل. البديل مزيان باش الانسان يتفادى الامر، بين له البديل. ثم ارشدهم ان يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. Donc vendez de l'or contre de l'argent, les quantités échangées étant comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez du blé contre des dattes sèches. Donc là, on voit que les espèces sont différentes. Donc là, on peut avoir un surplus si les espèces sont différentes, à condition de faire la vente main à main. Donc il n'y a pas de délai. Les quantités échangées étant comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez de l'or contre des dattes sèches, les quantités échangées étant comme vous voulez, à condition que ce soit main à main, rapporté par Tirmidhi. Numéro 1240. Donc riba al-fadl, Donc, il y a usure autrement que par le retard de l'échéance. Quand on vend de l'argent de la main à la main, on compte avec différence dans la valeur des deux prestations. Il en est de même pour l'or vendu contre de l'or. Donc, on ne peut vendre de l'argent pour de l'argent, ni de l'or pour de l'or, qu'à condition que les deux valeurs soient exactement semblables et que la transaction soit faite de la main à main. D'accord? Maintenant, si les espèces sont différentes, la différence de quantité, il n'y a pas de problème. Simplement, le délai n'est pas toléré. Et là, on parlera de change, sarf, sarf. Donc ça s'applique directement au sarf, change, le change. Donc le change, si je fais le change de main à main, tout va bien, c'est licite, il n'y a pas de souci. Et dans le sarf, il y a des billets, il y a l'euro, il y a le dollar, l'équivalent de dollar, il n'y a pas de souci. Mathalan, Adam Mithal. Amma Ida, Nimshianan, dollar, l'yom, باش انت تعطيني اليورو في هذه من هنا 3 شهور ها هذا لا ها لو دولار دو ماتنو كونتر الاورو دون 3 mois نو نو سا سا فا با باسكو ايفيكتيفمون انتر تان لو مارشي فلوكتو اي يورا سيرتينمون اون انجوستيس او ان بريجوديس سوبي دون دي دو بارتي كونتراكتونت هذا فيه ضرر لاحد المتعاقدين ها لهذا لا بد من في الصرف لانه المال نظير المال ما يمكن يكون الا يدا بيد هنا يعني اليورو العملة ديال اليورو مثلا تصرفها بالدولار خاص تكون في الحال ما تكونش في الأجل ما يكونش فيها أجل يعني تعطيني الدولار نعطيك اليورو ما يكونش الأجل إذا كان الأجل فكيكون هناك ضرر لأحد المتعاقدين لأن الدولار واليورو كما نعلم في ساحات البورصة العالمية يزيد وينقص فهذا كي سبيكول سور لا بيس اي لوتر سبيكول سور لوغمونتاسيون اي لا سا فا با باسكو ايفيكتيفمون يورا سيرتينمون ان بريجوديس دو لان دي دو بارتي كونتراكتونت. Mais il n'y a pas d'inconvénient à vendre les fruits et les légumes verts. Est-ce qu'il ne peut constituer des provisions avec inégalité de contre-valeur, même si les choses vendues sont de la même espèce, mais la transaction doit se faire de la main à la main. Et then, les 7 000. Donc je disais, mais il n'y a pas d'inconvénient à vendre des fruits et légumes verts. Est-ce qu'il ne peut constituer des provisions, donc ce qui ne rentre pas dans le hadith qu'on a cité, avec inégalité de contre-valeur, même si les choses vendues sont de la même espèce. Mais la transaction, c'est ça la condition, doit se faire de la main à la main. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire en général. Hein. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Vous reviendrez évidemment sur, enfin, on reviendra sur cela dans les questions si il y a des questions sur cette partie-là. Donc, enfin, pour cette partie de riba, je vous dirais simplement que l'islam encourage le commerce et demande un prêt d'honneur. Le commerce est l'alternative du riba, évidemment, et demande un prêt d'honneur, qard hasan, au lieu d'un prêt usuraire. Et Allah s'engage lui-même à multiplier le mérite de celui qui aide quelqu'un en lui donnant un prêt sans intérêt. Et dans le cas de l'Hassan, Allah tabaraka wa ta'ala, huwa alladhi yudha'ifuhu. Allah tabaraka wa ta'ala, yaqul man yuqridu Allah qardan hasanan. Comme je fais le mari, il dit, il a udhitahu wa jettahu indi, il dit, 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 il فكي يقولك ان اذا قرضت الانسان راه بحال اللي قرضت الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول في بعد الدول باش الرشيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la Sourate 2, verset 245, quiconque prête à Dieu de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois, Dieu restreint ou étend ses faveurs et c'est à lui que vous retournerez. واللي ما كيطبقوهاش كثير من البنوك الاسلاميه هي المهله. المهله بالنسبه للانسان اللي عنده اعسار يعني معسر. الله تبارك وتعالى يقول فان كان ذو عسره فناظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم وان كنتم تعلمون. يعني الانسان ما قادش يدفع دابا خاص تعطيه مهله ما عدا اذا كان مماطل. اذا كان كاين جوج الحوايج، كاين الغني المماطل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، هذا خصو عقوبات زجريه. اما الذي لا يمكنه الدفع بسبب مشكل يعني عنده مشكل مادي او يعني اعصار يعني معسر، فاذا كان معسرا لا بد من انظاره الله تبارك وتعالى، ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، ولا تصدق عليه بجزء من ذاك القرض اللي اعطيته او بكله. الله تبارك وتعالى يجازي المحسنين وما عنده خير وابقى. دونك الله سبحانه وتعالى دي Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se libérer de sa dette. Si vous pouviez savoir pourtant quel mérite vous auriez en lui consentant une remise gracieuse totale ou partielle. Donc ce qu'on appelle les pénalités de retard, c'est interdit en islam. Donc il y a deux sortes de débiteurs. Il y a le débiteur qui passe par une difficulté financière. Celui-là, le Coran, nous dit qu'il faut lui donner un délai jusqu'à ce qu'il puisse se libérer de sa dette. Ce que ne fait pas beaucoup de banques islamiques, malheureusement. Donc, ils font des pénalités de remboursement, malheureusement, dès le premier mois. Et le deuxième type de débiteur, c'est le débiteur qui a de l'argent et qui fait le malin, qui ne veut pas payer. Donc, celui-là, évidemment, il y a des sanctions par rapport à cela. Et évidemment, les sanctions peuvent différer selon les lois, les législations, etc. C'est le juge qui jugera effectivement des sanctions. Il peut s'agir d'un prélèvement à la source, il peut s'agir de sanctions prison, etc., pour l'obliger à honorer sa dette. Donc là, on rentre pas dans ces détails-là. De toutes les façons, il y a deux types de débiteurs. Donc pour ce qui est du débiteur qui passe par une difficulté financière, eh bien le Coran nous incite à lui donner un délai. Deuxième grande interdiction, c'est ce qu'on appelle le qimar. L'interdiction du qimar, ou le meysir. المسير جات من يسير فكانوا العرب في الجاهليه يلعبون هاد الالعاب هذه ديال الحظ واللي هي يعني ظلم في ظلم وكان كتجيب لارجون فاسيل سموها اليسير الميسر جاءت من اليسير يعني تدل عليهم الارباح بيسر وفيها ظلم وفيها عداوه وفيها بغضاء كما جاء في القران الكريم كما سنرى دونك لو قمار الميسر سي ديفيني كوم توت فورم دو كونترا دون لوكيل لو دروا دي بارتي كونتراكتونت ديبون d'un événement aléatoire. C'est notamment ce principe que l'on trouve dans les jeux de hasard et les pariages avec mise. L'interdiction du meysir et du qimar est explicitement citée dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamr wal maysir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'ani ssalah fahal antum muntahun. Idan hada tahrim qati'. إذا كما نعلم المحرمات جاءت على أطوار على مراحل ففي الأول كان الخمر يعني كان في الأول يسألونك عن الخمر الميسر وفيما إثم كبير ومنافع الناس ثم جاء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم بعد ذلك عندما يعني الإسلام والإيمان ثبت في القلوب واستقر جاء التحريم القاطع في هذه الصورة اللي تلونا ها من صورة المائدة جاء التحريم القاطع جاء التحريم القاطع للخمر وللميسر يعني اللوطو وما شابهه هذه كلها محرمة تحريما باتا قاطعا بنص القرآن الكريم بنص هذه الآية التي نسخت كل ما قبلها. Donc ce verset, il abroge tout ce qui était avant, il interdit de façon ferme, explicite et définitive tout ce qui est vin, tout ce qui est évidemment boisson alcoolique, enivrante, et tout ce qui est qimar, donc jeu de hasard. Donc je cite le verset du Coran de la Sourate 5, versets 90 et 91, l'interdiction, ô vous qui avez cru, le vin, la divination par les entrailles des victimes, ainsi que le tirage au sort, le jeu de hasard, maïsir, ne sont qu'un acte impur de ce que fait Satan, évitez-le. Le diable ne cherche qu'à introduire parmi vous les germes de la discorde par l'animosité et par la haine à travers le vin et le jeu de hasard, et à vous détourner de l'invocation de Dieu et de la prière, allez-vous donc y mettre fin? Donc spéculer, parier sont des synonymes de meysir. Évidemment, le risque extrême n'est pas raisonnable et n'est pas admis en islam. Donc ce type de commerce, donc on parie sur quelque chose qui peut arriver comme elle ne peut pas arriver. Donc ça, tout ça, c'est pas autorisé en islam. L'interdiction du gharar. Donc ça, c'est la troisième grande interdiction et c'est très important, il faut faire très attention. Le gharar, donc, se définit comme toute transaction dans laquelle il y a tromperie ou ignorance. Jahala. Sur l'objet du contrat. La vente rara est celle dont on ne sait pas si l'objet existe ou non, ou on ne connaît pas quelle est sa quantité, ou s'il sera possible de la livrer ou non. Donc, toute spéculation en parie sur l'avenir, et évidemment, là, on va intervenir des incertitudes extrêmes. Donc, le rara veut dire aussi toute transaction comportant un flou ou un aléa. Donc, le rara reprend les activités qui ont un élément d'incertitude, d'ambiguïté ou de déception. Dans un échange commercial, il se réfère à une tromperie ou à une ignorance sur l'objet de contrat, l'incertitude sur les matières, le prix, etc. La vente rara est celle où il y a incertitude quant à l'objet, sa quantité, ou s'il sera possible de le livrer ou non. Le rara est considéré comme normal dans une transaction s'il n'est pas excessif et si son impact sur l'économie ou la société est minimal. Donc, parmi le rara excessif, on cite la vente du poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Donc, ça, c'est du rara excessif, le rara fahish. إذا الغرر الفاحش محرم بنص الحديث النبوي الشريف الذي سنريده إن شاء الله فهو فيه غرر فيه جهالة فيه ظلم لأحد المتعاقدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار إذن إذا كان وإن وإن هذا الغرر الفاحش، فإن كان الغرر يسيرا ومرض ذلك إلى العرف لم يحرم البيع، وذلك كبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل والبصل ونحوها، وكبيع المقات مزارع القتاء والبطيخ ونحوها، كما هو مذهب إمامنا مالك الذي يجيز بيع كل ما تدعو إليه الحاجة ويقل غرره بحيث يحتمل في العقود. L'interdiction du gharar est tirée notamment du hadith suivant. Le prophète a interdit l'achat d'un animal non-né dans la matrice de sa mère, la vente du lait dans la mamelle sans mesure, l'achat d'un butin de guerre avant sa distribution, l'achat des dents de charité avant leur réception et l'achat de ce qu'a pêché un pêcheur avant sa pêche. Donc c'est quelque chose de très simple. Et malheureusement, dans les crises de subprime, ça n'a pas été respecté. Donc il y a eu vente de produits pourris que personne ne sait ce que c'est. Hein, donc, et transfert de ces produits, donc transfert de risque. Et donc voilà ce qui a fait foirer tout le marché mondial. Une chose aussi très importante, donc ça c'est le gharar, le jahala. Hein, et il y a une exception à la vente de ce qu'on ne possède pas et ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est le salam, on va le développer avec ses détails et ses conditions. Donc salam ou l'istisna, hein, donc c'est une exception de la vente de ce qu'on ne possède pas. Donc ici, t'na au bi'il ma'doum, wa salam, on va dire, chauffeur, bitufsil, inshallah, fi ma ba'd. إذا المسألة كذلك يكثر السؤال عنها هي مسألة تسعيرة. مسألة تسعيرة، النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال غلا السير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لا أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويستثنى من المنع من التسعير إذا حدث خلل مصطنع في السوق وتلاعب وغش، فإنه يجوز للسلطان حينئذ التسعير لرفع الضرر. إذن هذا التسعير هذا. Donc la fixation des prix, normalement il n'y a pas de fixation de prix en islam, hein, c'est le marché qui le fixe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Donc on n'a pas le droit de fixer un prix ou de fixer une marge. Donc dans le commerce, c'est en fait le consentement entre les deux parties, hein. Donc moi je te propose un prix, tu me dis c'est bon, c'est pas bon, ça te convient pas, donc c'est le prix du marché. Évidemment la concurrence déloyale ou la triche ou la tromperie sur la qualité et les quantités de marchandises est évidemment interdite, hein. Là on parle pas de concurrence déloyale, on parle de fixation de prix. Et donc, j'ai cité le hadith du prophète Salma où ils lui ont demandé de fixer les prix. Il a dit non, c'est là une injustice. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fixe le prix, et qui donne, et qui prive, etc. Exception faite, évidemment, du cas où il y a des spéculateurs, des malins qui veulent effectivement nuire à l'économie. Là, l'autorité a le droit d'imposer un prix, ou de fixer les prix, ou d'ajuster, ou de faire ce qu'il faut pour éviter cette injustice et ce préjudice. Voilà, donc, mais en général, la marge commerciale n'est pas définie de façon exacte dans l'islam et on n'a pas à la définir. C'est le marché, donc c'est la loi du marché. Voilà, c'est la concurrence, etc. Et il ne doit pas être déloyal et il ne doit pas y avoir de triche, ni de tromperie, ni de dol, ni de dissimulation, rien du tout. Voilà, transparence, etc. Évidemment, on peut aussi parler d'autres interdictions comme le stockage spéculatif, l'ihtikar, etc. Mais c'est pas le moment. Donc j'ai cité les principales interdictions, pardon. Et donc il y en a d'autres, mais c'est vraiment les trois principales, hein. Donc riba, al-gharar, al-maisir. Riba, al-gharar, al-maisir, c'est les principales interdictions et qui ont aujourd'hui, malheureusement, le non-respect de ces interdictions a nuit à l'économie et à la vie et au confort de l'humain sur cette terre. Donc, pour résumer, donc la principale exigence de la finance islamique dans ce qu'on appelle le principe des 3 P, la clé de répartition donc doit être fixée dans une proportion et non par un bénéfice à la signature du contrat. Donc partage des pertes et des profits, tangibilité de l'actif. Donc une opération doit être obligatoirement adossée à un actif tangible réel. Donc la tangibilité de l'actif, donc réel, matériel et surtout détenu. Donc les cibles de prédilection sont l'immobilier, les complexes énergétiques, l'énergie, les matières premières, etc. Toute transaction financière doit être sous-entendue par un actif tangible et identifiable. C'est le principe de l'asset banking. Et enfin, donc le secteur d'investissement illicite, hein, qui sont exclus donc de la finance islamique, que ce soit en consommation, en investissement, etc. ربي سبحانه وتعالى حرم محرمات، بحال مثلا الخمر، الخمر الله تبارك وتعالى حرم بيعها، حرم شراءها، حرم نقلها، حرم عصرها، حرم كاع الامور كامله، وحرم حتى بيعها لغير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم سولوا واحد قال له واش نبيعها لغير المسلمين، قال له الذي حرم يعني شربها حرم بيعها لغير المسلمين. اذا الانسان فليحذر الانسان، هذا ام الخبائث، الخمر ام الخبائث، الانسان يجتنبها اجتنابا عظيما. كذلك بالنسبه للميسر الى اخره. Donc, quelques secteurs d'investissement illicites en islam, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Secteur, l'industrie du tabac, pornographie, érotisme, l'industrie de l'alcool et du vin, bien sûr les drogues, l'industrie des jeux de hasard, l'industrie porcine et de l'alimentation non licite, l'industrie de l'armement, exception faite pour les États, l'industrie bancaire, excepté l'industrie bancaire islamique, l'industrie de l'assurance, excepté l'industrie takaful, c'est-à-dire l'assurance mutuelle islamique, et l'industrie des jeux de hasard, donc évidemment. C'est les principaux secteurs d'investissement exclus de la finance islamique où on ne peut ni investir, ni acheter, ni vendre, etc. Notamment pour ce qui est des actions, par exemple. Parce qu'on sait que les titres sont interdits en islam. Donc les actions sont, doivent, les titres sont interdits, enfin les obligations sont interdites. Mais les actions, ils doivent porter sur des sociétés qui ne travaillent pas dans ces secteurs qu'on vient de citer, par exemple. En résumé, les produits bancaires islamiques respectent quatre règles: le partage des risques, la matérialité des échanges, l'absence des pénalités de retard de remboursement et le non-financement des transactions interdites par la charia. Et les charia boards, donc sont les garants des produits islamiques. Ces conseils sont formés de docteurs en religion islamique des quatre écoles juridiques connues et reconnues. Et les quatre questions que se pose finalement le comité Sharia Board devant toute transaction. Donc, premièrement, les termes de la transaction sont-ils conformes à la Sharia? Deuxièmement, est-ce le meilleur investissement pour le client? Troisièmement, l'investissement envisagé produira-t-il de la valeur ajoutée pour le client, pour la communauté, pour la société dans laquelle le client est actif? Et quatrièmement, en tant que gestionnaire de fonds, la banque islamique effectuera-t-elle la transaction de la même manière que si elle le ferait, si elle agissait pour son propre compte? La finance islamique fait partie des ISR, des investissements socialement responsables, et de la finance éthique. Donc évidemment, la banque islamique ne fait pas d'intérêt. Si elle prête, ce sera sans intérêt. Ne fait pas de prêt avec intérêt. Si elle prête, ce sera sans intérêt. Donc elle fait le qard hasan, et c'est pas sa principale activité évidemment. Donc si elle prête, ce sera sans intérêt. Et elle s'interdit aussi l'indemnité de retard en cas de non-remboursement. Évidemment, on a parlé tout à l'heure de Beit Zakat dans les banques islamiques. Et la finance islamique est amenée aujourd'hui à jouer un rôle social très important, en investissant dans les pays en voie de développement, dans le développement durable et dans les projets à utilité publique. Exemple, les Sukuk, obligations islamiques, étant par nature adossées à des actifs, sont en mesure de financer le développement des infrastructures et de nombreux pays émergents, envisageant de financer leurs projets par et les missions des Sukuk. Et on va le voir qu'il y a une nouvelle loi aussi en France sur les Sukuk, et effectivement ça nous intéresse tous. Donc après cette récapitulation, donc je rentre dans le détail un peu des contrats de la finance islamique, donc des éléments qui permettent à la finance islamique de fonctionner. Donc je m'attarderai un petit peu sur trois contrats parce que le temps effectivement nous presse. Donc premier contrat, la mudaraba ou le qirad, donc islamiquement, donc étymologiquement pardon, la mudaraba est tirée du terme darbu fil ard, c'est-à-dire parcourir la terre pour effectivement fructifier l'argent de Rabb al-Mal, du détenteur du capitaux. Idan thabata fi sirah an-nabawiyyah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila ash-sham mudariban bimali khadijah bint khuwaylid radiyallahu anha wa kana dhalika qabla an-nubuwah thumma hakahu ba'daha muqarriran lahu wa at-taqrir ahad wujuhi as-sunnah fadalla dhalika ala mashru'iyyah al-mudarabah. Donc c'est une alternative au contrat épargne, hein, contrat investisseur. Donc dans la finance classique, hein, le bon occasion, une scène qui peut ouvrir un compte d'épargne, le banque a quand il y a une nisba moyenne, moindre, qu'alila, jidan, dit le ribh, mais qui douze ou quinze ou là. Là, dans le banque islamique, là, dans le banque islamique, Rabb le mal, qui a le mal, mettez le banque, là, on t'aoule, que nous bizarre, qui s'appelle mouchareka, ou avec le banque بالاتفاق يعني مع الانسان كتمشي كتدير المعاملات ديال التجاريه اللي هي يعني اما مضاربه مقيده او مضاربه مطلقه، فكتعمل معاملات تجاريه دي بلاسمون بورسي اكسيتيرا كتكون حلال موافقه للشريعه الاسلاميه، وكيتكون اتفاق في هذاك العقد على نسبه الارباح 40% 50%، فهذا يعني يربح فيه الاثنين، البنك هو يعني الانسان اللي هو رب المال فهذا شيء يعني شيء في العدل وفيه الربح. أما هذا يعني هذا الكونت ديبارن كما هو الحال عليه اليوم ففيه غبن وفيه غش وفيه يعني واحد الضيم وضرر كبير، يعني واحد كيعطيك انت واحد نسبة قليلة وهما يقدروا يكونوا يعني ربحوا واحد الأرباح طائلة. Donc c'est une alternative, comme je dis, du compte d'épargne. Dans le compte d'épargne classique, dont vous avez un pourcentage très petit, hein, 2% par exemple, ou moins ou plus, fixe, etc. Et donc vous êtes obligé de garder l'argent chez la banque, etc. à un moment donné. Donc elle vous remet après, donc c'est un crédit hein, que vous donnez à la banque. Et puis elle le fructifie, elle fait pas mal de placements, vous savez même pas ce qu'elle fait. Elle peut gagner pas mal d'argent. Et vous avez qu'une partie infime de ce bénéfice, de 2%, des choses comme ça. Donc c'est en quelque sorte pour vous injuste d'avoir ce gain chétif par rapport à ce qu'a fait la banque. Alors que dans la finance islamique, dans la banque islamique, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Rabb el Mal, donc le détenteur du capital, va donner l'argent, va donner une partie du capital à la banque. La banque va s'occuper de fructifier, donc ce qu'on appelle Modarib, la banque dans ce cas-là, pour cet exemple que j'ai pris, va fructifier cet argent, va le placer dans les placements licites conformes à la charia. Et il va y avoir dans le contrat même, entre les deux parties contractantes, donc la banque et l'investisseur, une signature sur sur les pourcentages, par exemple 40%, 60%, donc ce qui est un grand gain pour Rabb el Mal, pour le détenteur du capital. Donc c'est un contrat par lequel la banque Rabb el Mal apporte l'ensemble des capitaux financiers nécessaires, enfin c'est une autre façon de le voir, au projet de l'entrepreneur Moudarib, qui lui va apporter son capital travail en cas de perte de la banque. En cas de perte, la banque subit une perte financière, l'entrepreneur subit une perte de son coût, l'opportunité de 30 travail. Donc notez bien que le Moudarib n'assure pas le capital, ne le garantit pas, sauf s'il y a un manquement avéré de sa part. Hein, d'accord? Donc là, il juste un yatahammal Moudarib shay'an min al-khasara illa idha thabata taqsiruhu. فالخسارة إن وجد بدون تعدل ولا تفريط فمن المضارب pardon فالخسارة إن وجدت بدون تعد ولا تفريط من المضارب يتحملها صاحب رأس المال فالخسارة إن وجدت بدون تعد ولا تفريط من المضارب يتحملها صاحب رأس المال. Le contrat modaraba est semblable à une société en commandite dans le droit français. Donc on cite utilement la modaraba du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse Khadija. Il faisait le commerce avec l'argent de Khadija qui possédait le capital, et lui il faisait l'effort et le commerce avec cet argent, et puis il y avait évidemment distribution du pourcentage de bénéfices pour chacun. Je rentrerai pas dans d'autres détails, et il y a effectivement aussi le rapport du Sénat du 14 mai 2008 qui en parle. Deuxième grand contrat, la murabaha, c'est l'alternative aux prêts immobiliers ou mobiliers à intérêt. Donc il faut faire très attention, parce qu'il y a beaucoup il y aura beaucoup de questions, je pense, sur cette partie-là. Donc cette technique consiste par l'achat de la banque islamique. Donc l'achat, hein, donc la banque islamique prend possession du bien. Donc d'abord, vous, personne physique ou une entreprise, vous allez voir la banque, vous lui dites, écoutez, moi, cette voiture ou ce bien immobilier m'intéresse. D'accord? Donc vous faites ce qu'on appelle une promesse d'achat. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la banque achète ce bien. Donc, il rentre en sa possession, dans son bilan. D'accord? Donc, elle l'achète. Ça devient sa possession. Donc, elle en est responsable. Elle est responsable des vices de ce bien. D'accord? C'est très important aussi. Après, vous venez la voir, elle vous le vend. Et comme vous n'avez pas le cash tout de suite, elle vous le vend à terme avec des facilités de paiement. C'est-à-dire, par exemple, 1000 euros sur 15 ans, mais très important, elle vous spécifie le prix initial et la marge qu'elle fait. D'accord? Tout ça, c'est dans le contrat. Les échéances, c'est dans le contrat. Tout est dans le contrat. D'accord? Donc, il y a des échéances. Il donne Ibn Rushd, comme il dit Ibn Rushd, il y a des échéances, 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 il y a هناك يعني ويفرض لك يعني هناك يعني واحد لا 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 واحد الربح لهذا سميت مرابحة ليكون معروف ومتعاقد عليه هو من البيع بالآجل يعني فيه البيع بالآجل وفيه البيع بالتقسيط فيه جوج ديال الأمور فيه البيع بالآجل وبيع بالتقسيط وكل شيء يكون في العقد. Donc, cette technique consiste en l'achat par la banque islamique d'un actif qu'elle revend à terme à ses clients avec une marge préétablie. Le remboursement peut s'effectuer en une fois ou selon un échéancier fixé lors de la conclusion du contrat. Il est essentiel, comme on l'a dit, que la banque soit propriétaire de l'actif avant de le revendre. La marge doit être acceptée par les deux parties contractantes. Donc, il est une alternative au prêt à intérêt destiné à l'acquisition. Il est à noter que pour ce type de financement, deux contrats distincts sont signés, achat et vente. Donc, en pratique, hein, là j'ai cité la théorie, en pratique, la banque islamique, dans le cadre du contrat Murabaha, a tout intérêt à vouloir se protéger du risque que le client n'honore pas ses engagements en exigeant un RAN, caution, ou kafala, et ou kafala, donc garantie, et il peut proposer aussi à son client des formules de check full, donc assurance mutuelle islamique. Donc, elle dit RAN, elle dit kafala, hein, qu'est-ce que vous voulez, je vais vous demander, ou je vais vous demander, باش تحاول تمنع الخطر ديال ان الانسان ما يخلاش او الانسان يوقع له حاجه لا قدر الله الى اخره، وكتقدر تقترح عليه مجموعه ديال الامور كالتكافل الى اخره، لايف تكافل او ما الى ذلك اللي غنرجعوا لها من بعد. دونك بن رشد كي مور ان 1695 دون سون بدايه المجتهد ونهايه المقتصد Il dit, l'ensemble des savants sont sur l'unanimité que les ventes sont de deux catégories, Musawama, y compris la vente aux enchères, et Murabaha. Dans la Murabaha, le vendeur cite à l'acheteur le prix d'achat initial et, de la marchandise et lui conditionne une marge bénéficiaire. Idem, l'origine de Murabaha, le contrat de vente à terme avec un prix supérieur au prix actuel est valide et licite en islam à des conditions que la personne reçoive la marchandise et que cela soit dans les choses qui admettent le retard en islam. Idem, l'achia l'ati, taqbal ou ta'khir ou l'nissa, ce qu'on s'appelle l'nissa fait d'in adna, fait le mu'amala tijaria. Idem, il m'qdro chay, n'bi'a l'ek l'mal, bel mal qui m'achfna qbayla, n'bi'a l'ek l'mal bel mal ou ta'am bel ta'am bel ajal, là. Que la personne reçoive la marchandise, que ce soit dans les choses qui admettent le retard en islam. Pas de vente à terme pour l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, les monnaies contre les monnaies, pardon, ni la nourriture en échange de la nourriture. Il faut fixer dans le contrat le prix et les échéances. Et enfin, il est illicite de demander dans le contrat des intérêts pour les retards par rapport à la date de l'échéance fixée. Donc les pénalités de retard sont interdites, hein, on ne peut pas. Et là, on a dit qu'on distingue entre le créancier malhonnête et le créancier en difficulté financière pour lequel il faut évidemment laisser un délai pour qu'il puisse se remettre à pied pour ce qu'on appelle meilleure fortune, retour à meilleure fortune. Al-Hafidh ibn Hajar a cité unanimité ijma' sur la licité de cela, comme celui qui va vendre une marchandise maintenant comptant à 100 ou à terme à 110. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait acheté de la nourriture à sa famille et retardé le paiement à une échéance. Et dans la sunna aussi, la mère des croyants Aïcha raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait acheté d'un juif des produits alimentaires pour un délai et a laissé comme caution son bouclier rapporté dans le Bukhari, dans le livre de Ran. Et dans Sunan Nisa'i, il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma ta wadi'uhu marhunun 'inda al-yahud. Il dit ta'amal ma'a al-yahud wa ta'amal ma'ahum yani bihad al-amr hada dial annahu ishtara umur yani bihad al-amr hada li shifnah. Fahada i'tamadahu al-ulama lit-ta'sil lihad al-bi' bil-ajal wa al-bi' bit-taqsit bi shurutihima. Il dit al-bi' bil-ajal bi thaman akthar min thaman al-hal bi'un sahih wa lahu shurut wa dawabit. Min ahammiha an la yakun al-mabi' mimma la yajuz fihi an-nisa'i at-ta'khir. كما شفنا المال بالمال او الطعام بالطعام او الفضه بالفضه او الذهب بالذهب. يشترط في البيع بالاجل تكون السلعه ما يجوز ان تباع بالاجل، بالذهب والفضه والاوراق النقديه لا يجوز ان تباع بالاجل اذا بيع بعضها ببعض، وكذلك الطعام بالطعام، كما انه لا يجوز التعاقد على ان المشتري اذا لم يدفع الثمن في الاجل فانه يزيد على ما في ذمته. هذا لا يجوز. Donc, je passe, on reviendra tout à l'heure sur sur ce contrat-là avec vos questions. Dernier contrat, j'ai fini par ça. Salam el sitna. Donc, salam, c'est une exception de la vente de ce qu'on ne possède pas. Par exemple, je donne un exemple. Dans l'agriculture, je veux 3 tonnes de blé en juin. On est en octobre. Donc, il y a la semence. Bon, la personne, je vais voir la personne concernée, l'agriculteur. Je lui dis, voilà, on se met d'accord sur 3 tonnes. Tout doit être spécifié, la quantité du blé, sa nature, etc. Et je vous donne l'argent maintenant, c'est comme une avance de trésorerie, et vous allez effectivement acheter avec cet argent la semence et tout, et je vais venir au mois de juin 2010, donc on spécifie tout dans le contrat, et je vais prendre ce que j'ai demandé. Donc, et ça, tout ça doit être spécifié. Évidemment, par exemple, l'imam Abu Hanifa, pour se protéger contre les intempéries, des choses comme ça, il dit que la marchandise en question doit être disponible au moment de la livraison. Donc, elle doit être parmi les choses disponibles dans le marché facilement. On peut se rabattre sur le marché après si la personne n'a pas réussi sa récolte, par exemple. Donc, on va pas détailler. إذن هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف ونوع من البيوع هو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد ودليل مشروعيته ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه Donc l'exception donc de la vente d'une chose qui n'existe pas encore et qu'on ne possède pas, c'est le contrat salam avec ces conditions. Ce contrat illicite est validé pour faciliter la vie des gens qui ont grand besoin de ce contrat et aussi en se basant sur le hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui fait le salam ou le salaf, qu'il le fasse pour un volume connu, pour un poids connu et pour un délai connu. » Donc, quand la vente est contractée sur une chose bien décrite en quantité, en caractéristiques, mais non existante encore, c'est du salam. Vendre quelque chose de non déterminé qu'on ne possède pas encore et qu'on a prévu de livrer à un terme fixé. Donc, on ne peut pas retarder le paiement, mais il doit être donné dans la séance du contrat. فإذا تم ضبط السلعة المتفق على بيعها بالوصف النافي للجهالة عنها مع معلومية جنسها وقدرها ونوعها وأن يكون موعد التسليم مما يغلب على الظن وجود المسلم فيه عنده ويتم تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد فهو بيع السلم وهو بيع جائز شرعا. Je vais pas rentrer dans d'autres détails. Sachez que il y a aussi ce qu'on appelle les istisna, les hanafites l'ont développé. Et c'est que ça concerne surtout les constructions, donc c'est un contrat qui s'apparente au salam, donc il comporte des conditions aussi, donc pour le sisna, que la chose qui va être construite pour être livrée soit possible à cerner de façon à éviter toute ignorance et tromperie, exemple construction d'une voiture qui a des caractéristiques définies, fixer un délai de livraison, ça c'est la deuxième condition, pour ne pas tomber dans le rarar. Et d'autres savants pensent que fixer le délai n'est pas une condition. Donc le prix peut être comptant ou une partie comptant et une autre à terme plus tard. Voilà. وعقد الاستثناء إذن كما قلنا من العقود الجائزة ويشترط لها شروط منها أن يكون الشيء المصنع مما يمكن انضباطه بالوصف النافي للجهالة كصناعة السيارات ذات مواصفات محددة ومنها أن يحدد أجل مسمى للتسليم ولو يترك من دون تحديد وإلا كان عقد غرار ومنها أن هذا العقد عقد لازم للطرفين لا يجوز لأحدهما فسخه من دون رضا الطرف الآخر إن جاء الشيء المصنع مطابقا للمواصفات المتفق عليها سلفا أما الثمن كما قلنا فيجوز أن يكون معجلا أو بعضه معجل وبعضه مؤجل كما يجوز أن يلحق شرط جزائي بقدر الضرر الفعلي الذي يلحق بطرفي العقد هذا ما يمكن أن نقوله. Donc pour finir, je donne un peu d'actualité sur la finance islamique en France. Donc premièrement, donc il y avait la note de l'autorité des marchés financiers du 17 juillet 2007. Il constitue le premier texte de droit français qui vise expressément la finance islamique. Il y a aussi le rapport d'information numéro 347 du Sénat en date du 22 juillet 2007 qui souligne la nécessité d'encourager l'émergence de la finance islamique en France. Troisièmement, il y a l'agence de notation financière Moody's qui a publié un rapport indiquant que la finance islamique en France offre un fort potentiel, mais des obstacles demeurent, donc de nature juridique notamment, jurisprudence par le droit français. Ouverture à l'île de Réunion d'un fonds islamique validé par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers gérée par une filiale de la Société Générale, donc la BFCOI. Ouverture d'une première formation de 150 heures de la finance islamique en finance ainsi qu'un certificat de la finance islamique par l'Institut français des études islamiques, donc l'IFSI. Création du premier Sharia Board francophone, la SERFI. Ouverture d'un diplôme universitaire de finance islamique à Strasbourg en janvier 2009. Et ouverture, c'est tout récent, d'un DU, un diplôme universitaire, à l'Université de Dauphine. Christine Lagarde n'a cessé de donner des signaux positifs. Notre ministre d'économie actuelle n'a cessé de donner des signaux très très positifs depuis le 2 juillet. Hein, donc elle a déclaré, par exemple, s'adressant à des investisseurs du Moyen-Orient présents sur place, nous allons développer à la fois sur le plan réglementaire fiscal tout ce qui est nécessaire pour rendre vos activités aussi bienvenues ici à Paris qu'elles le sont à Londres et sur d'autres places. Donc je signale au passage que l'Angleterre aujourd'hui constitue la plaque tournante de la finance islamique en Europe et qu'ils sont très avancés. C'est à ce niveau-là, on a tout à apprendre. 2. Le cadre fiscal français a été aménagé pour deux produits conformes à la charia, donc les soukouk, les obligations islamiques, et la moulabaha, et aussi cette problématique de double imposition de la moulabaha, elle est en train d'être réglée. Le Parlement français a adopté en septembre 2009 une proposition de loi qui autorise l'émission d'obligations islamiques soukouk, en dépit de la prestation de la protestation de l'opposition de gauche. Donc le texte a été présenté par un député UMP et a fait, effectivement là, c'est un signal très positif. Et enfin, il y a une SICAV islamique chez Crédit Agricole qui vient d'être créée. Elle est de droit luxembourgeois, enregistrée en France, donc je vais pas détailler plus. Je finis simplement par donner quelques bibliographies choisies hein, sur le sujet. Et je vous laisse donc la parole pour vos questions.